Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui nous accueillons Marjorie Vessière, cofondatrice de l'association Les Crins des Liens, équisienne en charge de toutes les activités liées au cheval, et Joël Lamoliat, bénévole, créateur, animateur du potager social. Bonjour à tous les deux, comment ça va ?
Mais ça va très bien.
Très bien.
Voilà, on est content de vous recevoir. Alors bien sûr, j'ai dit un mot un peu bizarre, on va bien sûr revenir dessus parce que c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude. Moi-même, j'avais jamais tombé sur cette occurrence, je crois, personnellement. Voilà, donc on va parler un petit peu de votre association, hein, donc qui s'appelle Les Crins des Liens. Donc ça s'écrit les, plus loin crins, plus loin des, et puis liens. Je le dis parce que c'est rare qu'il y ait une association sans jeu de mots, donc il faut trouver l'énigme à chaque fois. Donc là, ça tombe sous le sens, mais voilà, c'est sympa. Donc on va parler de chevaux et d'hommes, bien entendu. Voilà,
tout
parce
à fait.
Que, du bien-être des hommes et des chevaux. Voilà, ça, et ça va ensemble dans ce cas précis. Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, il faut y passer, c'est la torture, c'est la trajectoire personnelle. Avoir une petite idée de votre trajectoire personnelle, parce que vous voulez bien en révéler, bien entendu. Qu'est-ce qui s'y colle en premier ?
Je vais commencer.
Allez, honneur aux dames.
Alors, du coup, moi, je suis Marjorie, je suis fille d'agriculteur, donc j'ai toujours vécu à la campagne, entourée d'animaux, notamment de chevaux. Mmh. Et j'ai un cursus qui passe par la fac de psychologie et après une école d'éducateurs spécialisés. Mmh. Et j'ai eu la chance pendant mes études en fait, d'aller faire un stage très long, enfin d'une année, à Equited, qui est aujourd'hui l'école des équitiens. Et donc c'est là où j'ai vraiment découvert cette pratique. Mmh. Et ben, du coup, en rentrant évidemment dans les Landes, j'ai voulu me lancer dans ce projet. Mmh. Et j'ai amplifié ma formation. Enfin, après, j'ai fait la formation d'équitien, bien sûr, et je l'ai agrémentée d'un diplôme universitaire en éthologie du cheval et d'un diplôme de coach pour essayer de pouvoir tant cadrer les personnes avec le cheval, que ça soit vraiment dans tout ce qui est éducatif thérapeutique, mais aussi les propriétaires de chevaux dans leur relation à l'équidé.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Donc, très bien. Donc, ouais, on a bien compris que le cheval est au centre de l'histoire. Et ouais.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait toute une carrière de technicien de laboratoire. En biologie médicale. Mmh. Et puis il y a eu le Covid, etc. Ça s'est pas très très bien passé. Donc j'ai changé de trajectoire. Là actuellement je travaille dans une association, une recyclerie créée à Local, à Orthès. Mmh. Et puis je me suis implémenté à l'Equissi parce qu'on s'est rencontré via le théâtre d'improvisation qui est une autre activité que je fais en bénévole. Mmh. Et puis c'est là que, comment dire, vu qu'avec beaucoup de chevaux je dispose d'une bonne matière première pour faire du potager, fait un potager.
Il paraît que les chevaux peuvent générer un fumier qui est intéressant.
Ah, ça produit,
ça
produit, fumier de cheval, fumier de poulet, on a tout ce qu'il faut.
C'est vrai qu'on avait discuté avec des biologistes ici, et c'est que les déchets des uns sont le trésor des autres,
hein,
dans le cycle de la vie.
C'est la grande histoire de la vie.
Oui, c'est vrai, on n'imagine pas des fois, mais c'est vrai que les gros mangent les petits. Et pareil pour les déchets des uns, c'est vraiment...
Sans la nourriture des autres.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est une discussion que j'ai eue ici avec des recycleries, ici à Souston, voisinage et tout, c'est qu'en fait, toute chose peut avoir une deuxième vie, en fait.
Si d'un déchet, on peut faire quelque chose qui a une valeur, alors il poursuivra sa vie d'objet et continuera.
Voilà.
C'est le principe même de l'écologie, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, alors, on va faire une petite présentation de votre association, alors globale un petit peu. Qu'est-ce donc ?
Alors, l'association Les Crins des Liens est donc née en 2012 avec l'idée de pouvoir amener la relation au cheval à toute personne dans un but, en fait, d'un mieux-être de la personne qui peut être en termes éducatifs, thérapeutiques ou de soutien. Donc, on a 28 chevaux sur place. Qui ont tous des particularités, un tempérament différent et qui permet de s'adapter à chaque personne qu'on reçoit. Voilà, et c'est vraiment la relation au cheval qui est le moteur. C'est-à-dire, on n'est pas dans une dynamique équestre, mais vraiment dans une dynamique de relation.
Oui.
Et pour le coup, on accueille vraiment tout type de public, quel que soit le handicap et les difficultés. Mmh. Et ça peut aller du handicap très lourd à la personne lambda qui, à un moment dans sa vie, a besoin d'un soutien et elle pense qu'en passant par les animaux et notamment par le cheval, ça peut l'aider. Voilà.
C'est vrai que là, comme on dit, c'est pas de l'équitation hein, du tout. Donc le but n'est pas de monter sur le dos des chevaux, même si les pauvres chevaux, entre guillemets, leur anatomie donne envie de monter dessus parce que le dos est tellement large. On se dit, oh, il y a vraiment une place pour y mettre quelqu'un. Ils sont pas nés pour ça en tout cas. Voilà. Donc après, tout dépend si on est végane. Mais si on est végane, en général, on pratique pas l'équitation, je crois. Enfin. Après, on peut être copain avec les animaux. Je sais pas moi.
Voilà. Disons que les partie végane, même si j'y connais pas, il y a toute une partie de la population qui est contre l'utilisation de l'équidé. Nous, on essaie que justement, on les utilise pas, mais on travaille avec eux. Voilà. C'est des vrais partenaires. Oui, on essaie vraiment. Ils ont leur mot à dire. C'est un cheval qui dit non, ben on a le droit de se poser la question pourquoi il dit non. On peut essayer de le motiver. Nous, tout notre travail passe par la motivation. Et le refus est accepté. Après, nous, clairement, on rentre dans le parc. Joël pourra raconter sa première expérience, mais en fait, ils ont plutôt tous tendance à venir et à être les premiers à l'entrée pour pouvoir sortir et venir avec nous.
Oui.
Donc, on peut penser que quand même, on ne les utilise pas, mais vraiment, on travaille avec eux.
Alors, on a reçu ici les camélidés de l'Atlantique, je ne sais pas si vous connaissez, là, ils nettoient un peu la côte des déchets, ils font des sorties avec des enfants, des handicapés aussi, et quelque part, ils font aussi la médiation aussi avec des camélidés, puisque historiquement, il y a eu des camélidés dans les années 1860, je ne sais plus combien. Voilà. Et donc, c'est la même discussion qu'on a eue. Hein. Donc, ils ne leur montent pas dessus. Bon, ils servent d'animaux de trait quand même, enfin de bas plutôt. Mais voilà, donc ils travaillent avec et en bonne entente. Et pareil aussi, ils ont un caractère, un tempérament différent suivant les individus. Voilà, c'est toujours intéressant.
Ah oui, puis le camélidé moyen, il a un caractère.
Ouais. Ouais.
Après, je pense sincèrement que ce n'est pas exploiter un animal. C'est travailler avec lui. Et l'animal aussi, il prend du plaisir à bien y réfléchir. Quand je jette un bâton à mon chien, je ne suis pas en train d'exploiter mon chien, je suis en train de m'amuser avec lui.
Même des fois, c'est l'inverse. Hein.
Oui.
Parce que au bout d'une heure, c'est fatigant, mais le chien, il a toujours envie.
Il a toujours
envie. Qui est-ce qui exploite l'autre, franchement?
Tout à fait.
Et si on parlait des chats, là, on n'en parlons pas. Voilà, bah très bien. Oui, donc les chevaux, c'est. On a reçu aussi un musicien, lui, qui vit avec un âne et il fait pas mal de marches et tout ça. Et on parlait aussi des caractères des ânes, qui est assez particulier aussi. On dit qu'ils peuvent être têtus, mais je ne sais pas s'ils sont plus têtus que les chevaux. Je ne sais pas si les chevaux ont vraiment un comportement un peu craintif ou pas. Je sais pas.
Alors, la différence. Ânes et chevaux sont de la même famille. Nous, on a un âne.
Ouais.
C'est un peu notre mascotte. Après, ils n'ont pas la même construction, en fait, dans le sens où, en effet, le cheval est un animal de fuite. Donc, dans la nature, son moyen de défense, c'est de s'en aller, de fuir. Donc, il va vivre sur un espace vital. Et s'il y a un prédateur qui arrive, sauf qu'il peut.
Oui.
L'âne, lui, il a un territoire. Et s'il y a un individu non désirable qui arrive, ou même désirable, il va aller, en tout cas le mâle, vers la limite de la frontière et il va défendre sa frontière. Donc déjà, on est vraiment dans des types de comportements qui ne sont pas les mêmes. Alors, je ne pense pas qu'il soit têtu, c'est juste que lui, il ne fuit pas. Quoi.
Ouais.
Et donc, il va plus réfléchir peut-être à la situation. Le cheval, il va d'abord fuir et après réfléchir.
Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant parce que c'est quand même des espèces qui sont relativement voisines, hein, biologiquement, mais c'est un comportement vraiment différent. Par exemple, en général, les canidés, c'est des animaux à territoire. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les canidés. Enfin, c'est comme ça qu'on imagine, on voit les chiens, etc. Et, tout. Et c'est vrai qu'âne et cheval, on n'imagine pas forcément qu'il y ait autant de différences dans un comportement aussi fondamental, en fait, dans leur manière de vivre.
Après, voilà, c'est à prendre en compte. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément trop su, mais... Mais voilà, après, ils cohabitent très bien et il y a plein de choses vraiment sur lesquelles ils se ressemblent.
Oui, voilà, ils cohabitent, du coup, ils vivent ensemble, ils sont copains, si on peut dire ça.
Oui.
Ah oui.
Ouais. Parce que des fois, il y a des animaux qui sont copains. Je trouve ça assez touchant, d'ailleurs. C'est beau à voir.
Ça se voit. Ouais. Ça se voit. Il y a un cheval chez Marjorie qui est âgé. Il s'appelle Libre. Il vit sa meilleure retraite, le petit gars. Il est content. Et ça se voit. Il y a deux autres chevaux qui sont tout le temps à côté de lui, qui l'accompagnent. Ça se voit. C'est touchant. C'est vraiment joli.
Ouais, c'est vrai que c'est assez touchant. Alors, si on parlait du site, vous êtes situé à Bonnegarde. Comment est-ce que c'est la taille, le terrain, de quelle nature
Alors, en fait, c'est l'ancienne ferme familiale que j'ai réadaptée. On a 18 hectares pour les chevaux. L'idée, c'est que les chevaux, ils vivent vraiment de manière le plus naturelle possible. Ça veut dire dehors, avec par groupe. Et après, ils ont chacun des abris et ils décident s'ils rentrent ou s'ils sortent. Mmh. Voilà, on ne va pas leur imposer d'être dedans ou dehors. Ils ont en règle générale bon, de la nourriture en termes d'herbe suffisant dehors, bon, à part les étés un peu caniculaires.
Oui, oui, ça c'est le problème.
Et même les ressources en foin, on met un dedans, un dehors pour que vraiment ils puissent choisir comment ils vivent, comment ils se déplacent. Mm-hmm. C'est des parcs avec des circuits où ils vont avoir de la forêt, il y a la rivière qui passe au milieu, enfin voilà. L'idée c'est qu'ils aient une vie le plus proche de la nature possible pour avoir ben, justement être bien aussi dans leur tête, être bien dans leur groupe social
oui,
pour après pouvoir interagir avec l'humain aussi de manière posée.
Ouais. Alors voilà, la médiation animale, hein, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, si on peut consulter la littérature, voire même des vidéos d'expériences qui ont été faites, mais on sait, par exemple, que si on prend le battement de cœur d'une personne ou sa tension, et qu'il y a un animal, je parle d'un animal au sens large, hein, le cheval, je vous laisse la spécificité, vous en parlerez, il se passe quelque chose en fait. Donc le contact des animaux, je ne sais pourquoi.
Ocytocine.
C'est des frères aussi. Qu'est-ce qui se passe ? On doit les considérer aussi une certaine altérité chez l'animal, mais il se passe quelque chose en fait avec un animal.
Juste de dire ocytocine, parce que c'est ça qui se passe en fait.
Oui.
C'est une hormone qui provoque une sensation de douceur et de plaisir. Mmh. C'est la même que l'on a envers nos enfants.
Ouais.
Et en fait, dès que vous allez vous mettre à caresser un animal, à avoir une interaction avec lui, ça vous fait faire de l'ocytocine.
Ouais.
Et vous avez naturellement un attachement et de l'affection et de la douceur.
Mmh. Et voilà.
Pardon, c'était la seconde biologie. Désolé.
Non, ce ne sera pas la dernière. Oui, donc voilà, cette médiation, c'est important ça.
Oui, oui, oui. Alors après, voilà, chaque animal a ses spécificités. Mmh. Moi, je suis vraiment spécialisée pour l'instant dans le cheval parce que c'est complexe en fait. Le cheval, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un animal de fuite. Donc, il capte plein de micro-signes de l'humain que nous, avec nos yeux d'humain, on ne capte pas.
Mmh.
Notamment aussi les battements de cœur, le rythme cardiaque, les phéromones qu'on peut envoyer, plus tous nos micro-signes. Il peut capter nos battements de paupières. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, il est le miroir de ce que nous, on va soit projeter en termes de comportement corporel, mais aussi en termes d'émotion. Et nous, c'est par rapport à ça qu'on va travailler. Ça veut dire que si le cheval, tout d'un coup, se met à être stressé, d'où vient ce stress,
en fait ? Il sert d'instrument de mesure, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. C'est un peu un traducteur de nos émotions. Et du coup, même des personnes qui ne vont pas parler, je pense à par exemple des personnes en autisme non-verbaux, nous, on va avoir quand même des informations sur leurs émotions.
Ah,
ou
oui.
Des personnes qui, à un moment, ont un mal-être, qui sont en burn-out ou comme ça, et qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions.
Mmh.
On peut aussi passer par l'explication, peut-être, du comportement du cheval, pour que, sans qu'on soit centré sur elle, en fait, on puisse parler de leurs émotions ou de leur mode de communication.
Mmh. Ah mais ça c'est vraiment très intéressant ce que vous venez d'expliquer. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Ça peut être une sorte d'amplificateur, de révélateur de la personnalité qui est devant lui, alors qu'on est censé nous être experts entre êtres humains à décoder nos informations verbales ou non verbales. Mais là, c'est vraiment très intéressant.
Et puis le cheval, il juge pas, il est vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va lui proposer à l'instant T, il va y réagir aussitôt. Et en plus, pour la personne que l'on accueille, des fois, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas ce côté jugeant. Ça veut dire que, à ce moment-là, il me fuit. Bon, pourquoi il me fuit ? Même si c'est une fuite de un pas ou deux.
Oui.
Ça permet à la personne de se poser des questions sans avoir ce côté effet. Non, mais il ne faut pas que je dise ça ou il ne faut pas que je fasse ça. Non, mais en fait, là,
Parce que ce n'est pas un être humain qui l'a fait.
Voilà.
D'accord. Alors voilà, nous voilà de retour. Donc, on parlait de chevaux et des hommes aussi. Donc, la médiation animale, ça marche dans les deux sens d'ailleurs. On fait du bien aux hommes, mais on fait du bien aux chevaux aussi.
Normalement.
Oui.
Si on le fait bien, nous on travaille tous nos chevaux en renforcement positif. Ça veut dire qu'on va pas mettre de tension ou de pression.
Mmh.
On va inciter l'animal à faire et après quand il commence à amener le comportement désiré, on va récompenser nous avec de l'alimentaire.
Mmh.
Mais voilà, c'est essayer de faire que le cheval il soit le mieux possible avec l'humain. Alors oui, des fois, il y a des petits, des choses qu'on ne peut pas non plus éviter, un peu de frustration, un peu de tension, mais bon, ils l'ont aussi dans leur vie naturelle. Mais bien oui, sûr. L'idée, c'est que l'humain fasse du bien au cheval et le cheval fasse du bien à l'humain.
Alors, vous intervenez à la fois dans les Landes et le Béarn, dans une zone
alors nous,
grande.
On est vraiment à la frontière, donc oui. À un moment on intervenait dans les centres équestres, maintenant beaucoup moins, plus en tout cas pendant un certain temps. Mm-hmm. Mais on est tellement à la frontière que la moitié de notre public vient du Béarn et l'autre des Landes. Voilà, Bonnegarde c'est vraiment oui. Limitrophe, Saute de Navaille, donc Pyrénées-Atlantiques.
C'est un petit peu à côté d'Amou.
Tout à fait.
Et alors vous faites des ateliers en extérieur ou en intérieur, voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité?
Alors, dans l'Équissi, on a plusieurs formes. Alors, intérieur, extérieur, on a un abri pour les jours où il pleut, voilà. Sinon, c'est aussi dehors. On fait des accueils en individuel ou en collectif. En individuel, c'est sur des ateliers d'une heure qui sont répétés normalement, soit de façon hebdomadaire, soit bimensuelle. Et voilà, c'est sous couvert d'un projet, c'est-à-dire que nous, on veut faire de l'éducatif, du thérapeutique ou du soutien selon notre prescripteur. Mmh. Si c'est un psychologue qui nous oriente la personne, on va plutôt travailler sur le côté psychologique. Si c'est un éducateur, on va plutôt travailler sur tout ce qui est apprentissage sociaux. Mmh. Si c'est la famille, on va voir avec la famille qu'est-ce qui pourrait aider la personne à aller le mieux dans son quotidien au sein de sa famille. Mmh. Et on écrit un projet. Et après, les moyens qu'on met en place dans les ateliers, en fait, ça dépend du projet, de l'objectif qu'on s'est fixé pour l'année. Oui. Donc voilà, là, ça, c'est l'Équissi, on va dire, classique. Pour les groupes, ça va être beaucoup des groupes qui viennent d'institutions amenées par un professionnel médico-social. Et c'est avec cette personne qu'on monte les projets, puisque dans le groupe, c'est souvent des projets individuels.
D'accord.
Donc, pour chaque personne. Mmh. On a aussi ce qu'on appelle les accueils de jour, donc ça c'est en demi-journée ou en journée, c'est un jeune, deux jeunes, enfin quand je dis jeune ça peut être des enfants, des adultes, voilà tout le monde. Et là l'idée c'est qu'ils aient leur place dans l'association et qu'ils participent en fait à toutes les activités un petit peu de l'association, donc il y a des temps avec les chevaux, il y a du temps de soins, il peut avoir venir avec nous faire des clôtures, faire du bricolage, participer au potager, voilà c'est un petit peu tout.
Oui.
Et après, on va avoir des activités un petit peu plus ponctuelles. Ça va être pour les familles, on a les matinées parents-enfants. Donc ça, c'est quand c'est versus cheval, ça va être jusqu'à 6 ans. C'est parents et enfants qui découvrent ensemble l'univers du poney. On commence à aborder justement la relation au poney en prenant en compte ce que dit le poney, pas seulement nos désirs à nous. Il y a la version matinée parents-enfants... autour du potager.
Oui.
On va en parler du potager.
Voilà.
On va y venir. Oui.
Après, on a ce qu'on appelle le répit parental. Donc ça, c'est vraiment des demi-journées pour les parents, où c'est les parents qui, pour avoir un espace à eux de bien-être, de détente, vont venir rencontrer le cheval.
Oui.
Pendant ce temps-là, on peut aussi accueillir les enfants dans une autre partie de l'assaut et mettre en place des jeux ou des choses comme ça, pas forcément avec l'animal, mais que les parents soient déchargés du poids, j'ai envie de dire, de trouver quelqu'un pour garder les enfants. Et c'est vraiment du temps pour les parents. Et après, on a aussi les accompagnements à la parentalité. Donc ça, c'est pour des familles, en fait, qui voudraient travailler un petit peu sur leur dynamique familiale, sur la communication à l'intérieur de la famille, sur la place de chacun, sur l'autonomie. Enfin, ça dépend un petit peu de toutes les familles. Et ça, c'est des petits cursus de 5 séances, vraiment pour la famille dans ce petit cocon-là. Voilà, en gros, les activités qu'on propose...
D'accord.
De façon régulière.
Très bien. On va parler après on va parler de ce potager. Il n'y a pas plus court comme circuit.
Ah ben non, là ça va être difficile. Donc on a des chevaux qui produisent une matière première essentielle. Les excréments d'une manière générale ça rebute un petit peu les gens. Mais en définitive c'est ce dont on a besoin pour faire pousser les plantes. Et puis... Faut écarter un petit peu les idées reçues. Quand je manipule du fumier, ça sent pas mauvais, c'est pas désagréable. Bon, c'est lourd, faut du bras, voilà. Mais le fumier de cheval va apporter une structure à la terre. Il va l'alléger au fil du temps. C'est long. Quand on démarre sur un sol qui n'a pas été utilisé, il faut vraiment 3, 4, 5 ans pour arriver à l'alléger.
Ah oui.
Le fumier de cheval, c'est le top du top. Pour ça, il n'y a pas mieux. Voilà. Ça, complété avec du fumier de poule, qui lui va apporter des nutriments, l'azote, etc. Le fameux NPK dont on parlait hors antenne, qu'on trouve sur les sacs d'engrais d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Sauf que là, en fait, c'est une origine naturelle, biologique. Et donc, en fait, là où les granulés utilisés on va dire en industrie agricole sont juste des produits minéraux, là, ce sont des éléments organiques complexes qui vont être décomposés petit à petit par la vie du sol et qui vont petit à petit le ramener aux plantes.
Voilà, voilà. C'est ça.
C'est le principe de base de la permaculture.
Voilà.
Je ne peux pas prétendre à faire de la permaculture pour l'instant, parce que c'est la première année que j'ai fait le potager, et donc là, j'ai dû travailler le sol.
Oui.
Tout simplement parce que ce sol a été martelé par des sabots de chevaux pendant 10 ans.
Et oui,
ça donc, au moment de mettre la grenillette dedans, ça ne se passe pas bien. La grenillette, c'est un outil pour bêcher.
Oui, je vois, oui.
Et donc, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai dû faire un travail mécanique. Et puis, petit à petit, on apporte. Les chevaux m'offrent aussi un autre service. Quand ils mangent leur foin, il y a du foin de rejet, une partie qu'ils ne veulent pas.
Oui.
L'énorme avantage que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a plus les graines. Parce que si je mets du foin tel quel dans le potager, il y a encore les graines.
On est envahi par les mauvaises herbes, entre guillemets.
Voilà, les adventices.
Oui.
Je les déteste pas en soi, mais j'ai autre chose à faire de mes journées.
Oui, c'est
sûr. Voilà. Voilà. Après, moi, à l'origine, j'ai appris le potager avec mon grand-père. Et donc là, je parle d'il y a plus de 30 ans. Et mon grand-père, la méthode, c'était que ça pousse pas, tu mets des granules, et puis quand t'as la maladie, tu sulfates.
Oui, oui, voilà.
Bon. Et puis en fait, c'est au fil du temps, avec Internet, etc., j'ai vu arriver ces principes de permaculture qui m'ont semblé être plus proche de ce qu'il faut faire, en fait, plus raisonnable, plus intelligent.
Oui.
Et puis à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas le faire et puis montrer aux gens, tout simplement.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est comme toute chose, construire une maison, c'est compliqué, mais si on vous apprend à le faire, vous saurez le faire. Voilà.
Alors ça représente quelle superficie pour l'instant?
Là, on est à 500 mètres carrés. Je compte bien doubler là dans l'hiver.
D'accord.
500 mètres carrés, ça fait déjà de quoi s'occuper les mains. Et donc ça permet une production quand même constante. Et puis surtout, ça permet de gérer les espaces de culture les uns après les autres. Et donc d'avoir une productivité à peu près soutenue sur l'année.
Alors est-ce que ça s'intègre à votre dispositif de médiation du coup?
Oui.
Voilà. Alors, de quelle manière? Racontez-nous ça.
Alors, au printemps dernier, par exemple, j'ai fait une ou deux journées avec des pitchounettes qui sont venues et puis qui ont mis des graines en godet. Je leur ai montré comment est-ce qu'on sème. Parce que une citrouille se sème pas comme une carotte, comme donc les différentes méthodes, etc. Là, on va avoir une journée, c'est le 20, c'est ça?
Oui, le 20 octobre, il y a la matinée par enfant.
Où on va faire venir des gens. Je vais leur montrer comment on met de l'ail en terre, etc. Petit plus aussi, quand ils font l'accueil des gens. Bon, moi, quand je peux sortir une pastèque ou un melon du potager, on amène, que ça en jaille un petit peu, ça fait plaisir. C'est des légumes qui ont vraiment une saveur vraiment différente. On est sur autre chose. Moi, je vais aller dans le potager, je vais tapoter sur toutes mes pastèques, je vais trouver la meilleure et je vais sortir celle qui est mûre à point. Une tomate cueillie sur un pied de tomate à maturité, ça n'a rien à voir. Ce qu'on trouve chez Edouard, on pourrait jouer à la pala avec.
C'est vrai, c'est plastique rouge un peu.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais il y a une logique là aussi derrière, c'est que eux, en fait, ils vendent des légumes qui sont conçus pour être transportés, qui sont conçus pour résister à un voyage de 500 bornes dans un 33 tonnes. Moi, je fais pousser des légumes qui sont conçus pour être bons.
Voilà, ouais. Et puis pas dans 3 mois, mais dans les jours qui viennent, pas plus. Voilà. Ça c'est sûr.
C'est tout simple. Et donc, y a quand même cette idée dans le potager du temps long. C'est j'accepte. J'accepte que quand je vais mettre un poireau en terre, je mangerai un poireau dans 8 mois. Ou du temps court. Un radis, ça pousse en 18 jours. Mais il y a cette variabilité des temps, cette attention aussi quotidienne. Je prends soin du potager, il me le rend. Je pense que ce sont des valeurs qui sont intéressantes à transmettre. Voilà. Et je trouve assez en cohérence avec ce qui se passe dans les Kissi.
Oui, d'accord. Alors, Marjorie nous disait aussi, là, même, il y a une boucle qui se fait avec on parlait des poules. Les poules qui sont là pour faire leur fumier, mais aussi elles nettoient le fourrage que vont manger les chevaux, par exemple.
En fait, les poules, elles sont en liberté chez nous, en totale liberté. Et du coup, elles vont dans les parcs des chevaux. Elles nettoient les crottins, en fait, pour faire qu'il y ait moins besoin de vermifuge. Donc, du coup, ça fait moins de produits chimiques à donner aux chevaux. Mmh. Elles éparpillent aussi les crottins, ce qui fait qu'il n'y a pas des amas, des amas récurrents un peu partout. Mmh. Donc voilà, donc ça nettoie les pâtures, ça aide en termes de santé, ça amène du fumier pour le potager, ça amène des œufs aussi, que nos adhérents aiment bien.
Oui.
Donc voilà, en fait, c'est vraiment un tout, c'est global. On a la rivière sur la propriété qui alimente en eau le potager, ce qui fait qu'on n'use pas l'eau de ville plus.
C'est super.
Voilà, on a un petit peu toutes les ressources pour faire que nos adhérents ils puissent et partager une activité qui est pas liée au cheval, mais quand même qui est dans l'environnement du cheval. Et avoir des légumes à prix réduit aussi, puisque nous, c'est du travail bénévolat, c'est à petite échelle. Donc voilà, et avec des personnes qui forcément n'ont pas forcément les moyens, déjà qui financent les ateliers d'Equissi, n'ont pas forcément les moyens aussi de se payer des légumes.
Alors, là, effectivement, pour nos adhérents, on est sur un rapport qualité-prix. C'est imbattable.
Ouais.
C'est pas possible de faire mieux que ça.
J'imagine.
Je prends juste un instant pour revenir sur la notion de l'eau. Utiliser de l'eau potable pour arroser un potager, c'est à mes yeux une hérésie. C'est un petit peu comme l'eau potable malheureusement qu'on utilise dans nos toilettes. C'est d'une
tristesse. Faire nos besoins dans de l'eau potable. Il y a des gens dans certains pays, en Inde et tout ça, quand ils voient ça, ils disent vous faites vraiment pipi dans l'eau que vous buvez.
Vous êtes fou.
Ouais. C'est sûr, c'est pas logique.
C'est
nettoyer après.
C'est d'un illogisme terrible. Et pareil, on en parlait hors antenne. Bon, finalement, je vais le dire. L'urine.
Oui.
L'urine, faites pipi, s'il vous plaît, les gens qui m'entendez. Oui. Faites pipi dans vos jardins.
S'il vous plaît, mesdames, pardonnez à vos maris qui font un effort pour la nature, il faut le comprendre.
Ne leur envoyez pas, mais c'est vraiment très important.
Voilà.
On perd une matière première qui est capitale. Je pense que c'est simplement une vision que l'on a des choses, c'est-à-dire que l'on voit ça comme quelque chose de sale.
Oui, c'est des choses. Les anciens l'utilisaient.
Ben oui. Alors effectivement, les matières fécales humaines, ça non.
Non, ça non. Terrible.
Voilà.
Non.
Par contre, l'urine à la sortie du corps, c'est un produit stérile.
Oui, normalement, oui, c'est vrai.
Elle ne présente pas de danger.
C'est ça.
Donc voilà.
C'est
alors
vrai.
Peut-être pas sur les radis.
Parce qu'elle a été filtrée déjà.
Oui. Nos reins s'en sont occupés.
Voilà.
Et donc peut-être pas sur les radis, parce que ça fait un petit peu limite. Mais par contre, au pied de votre pommier, au pied de votre cerisier, dans le jardin, faut pas avoir peur de le faire. C'est pas mauvais, ça va pas sentir mauvais. C'est une bonne chose, je pense.
Très bien, c'est noté. Voilà une bonne raison. Et est-ce que vous aviez envisagé de monter en puissance, d'aller jusqu'à une sorte de jardin partagé? Parce que j'en ai reçu ici plusieurs associations, ça se fait beaucoup. Est-ce que la surface et votre projection dans l'avenir vous ferez penser à ça?
C'est jouable. Là, le fait que nous allons doubler la surface va nous permettre d'arriver vers des choses comme ça. Là, pour l'instant, à 500 mètres carrés, c'est juste.
Oui, bien sûr.
C'est juste. Voilà.
Et ça va être une perspective d'avenir.
Tout à fait.
Très bien. Il faut qu'on parle aussi, bien sûr, donc, un petit peu des événements qui viennent et des projets. Ça, c'est des choses qui nous intéressent un petit peu. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, du coup, comme je vous avais parlé, on a les temps de répit parental. Donc, on a trois dates sur la fin de l'année. On a le 22 octobre, le 13 décembre et le 29 décembre, donc il reste des places pour chacune de ces trois dates.
C'est chez vous à Bonne-Garde ?
Oui, tout est à Bonne-Garde, là.
Okay.
On a les matinées parents-enfants autour du cheval. On a du coup le 29 octobre et le 22 novembre. On risque d'en placer une aussi pendant les vacances de Noël. Et celle autour du potager, c'est le lundi 20 octobre.
D'accord.
Voilà. Après, dans les projets qu'on peut avoir, c'est que nous, on a des cours d'approche bienveillante du cheval. Donc, c'est pour enfants, ados. Et c'est vraiment comprendre la globalité du cheval. Il y a des séances plus vraiment autour de l'éthologie, donc compréhension du comportement du cheval, du travail à pied. Et là, on a la chance d'avoir une nouvelle salariée sur l'association qui est accompagnatrice de tourisme équestre. Donc, à travers l'approche bienveillante, l'idée, c'est de former aussi les enfants à la randonnée pour après pouvoir faire des randonnées partagées, personnes en situation de handicap et personnes valides. Donc voilà, donc il reste des places sur les cours d'approche bienveillante qui sont le mercredi après-midi.
Mmh. Voilà. Alors, qui est-ce que vous avez en termes de partenaires et comment est-ce que vous financez vos activités ?
Alors, sur les activités pour les familles que j'ai parlé, c'est la CAF au travers du Réap qui finance, qui D'accord. fait que les tarifs sont très réduits. Et pour le reste, ben, cette année, ben, on n'a un peu plus rien puisque toutes nos autres demandes de subventions ont été refusées.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, mais il se passe un truc un peu comme partout.
Quoi. C'est, voilà, donc c'est un peu limite pour nous. Mais voilà, après, c'est le tarif qu'on fait. Mais on essaie quand même de faire mm-hmm. des tarifs le plus accessible possible oui. pour les personnes.
Donc, c'est l'occasion de profiter de cette antenne pour demander soit des dons, soit aussi des participations de bénévoles. Aussi, vous cherchez des bénévoles ou pas ?
Tout besoin, à fait, ouais. on peut avoir Toujours. Des bénévoles sur les activités autour du cheval, mais aussi sur le potager, mmh. ou des personnes qui ne se sentent pas forcément le lien au public. Il y a toujours besoin de personnes pour nous aider, pour faire des clôtures, mmh. pour faire du bricolage, voilà. Pour animer des temps, les dimanches matins, là pendant tout l'été, on a eu des temps de cueillette au potager,
ah oui,
donc
au potager,
ça peut être aussi mmh. Voilà, venir... Mmh. Venir passer du temps
ça
avec nous.
Ça peut passer du temps aussi, tout simplement. Mmh. C'est, voilà, la cueillette au potager, c'est un moment de partage, c'est un moment de...
Tout à mmh. fait. Et des dons, on est toujours preneur de dons. Voilà. Oui. Il n'y a pas de petits dons. Mmh. On a besoin de nourrir les chevaux, on a besoin de payer les salaires parce qu'il y a quelques salariés.
Ah oui,
voilà.
C'est, oui, c'est des charges importantes pour une association.
Tout
je
à
suis
fait.
Bien placé pour le savoir. Et voilà, et donc, puis je le rappelle à chaque fois, 60% des dons peuvent être récupérés après sur les impôts, ce qui n'est pas négligeable.
Pas négligeable, oui.
Pas négligeable et qui a l'intérêt de se dire ah, tiens, je sais qu'une partie de mon argent va être utilisée à cette cause-là. Et pas mis dans oui. un grand pot, donc je ne sais pas ce qui sera
ou
fait avec.
Ou caisse, voilà.
Voilà, mmh. donc c'est aussi l'avantage de cette méthode, je trouve que c'est quand même assez chouette.
C'est un pouvoir que l'on a sur notre
voilà.
don.
Pour les circuits courts, et ben, là aussi les impôts peuvent être un circuit court.
Circuit court, oui.
Voilà, c'est pas... Ben, on va se quitter sur cette belle phrase. Alors. Ben, merci beaucoup Marlo et Joël d'être venus. Ben, c'était, on a appris plein de choses, moi j'ai appris plein de choses en tout cas.
Ben, voilà. Merci pour votre accueil.
Sur la méditation et sur les chevaux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ce fut un bon moment.